Bonjour chers auditeurs des Voix d'Altaride, je vous propose aujourd'hui une table ronde enregistrée au Festival Paris et Ludique le dimanche 26 juin en compagnie de François Lalande, co-auteur de Bloodlust Metal, de Pierre Rosenthal, qu'on ne présente plus dans le milieu rôliste, qui a participé au magazine Casus Belli comme chroniqueur mais aussi comme rédacteur en chef des numéros spéciaux, Isabelle Perrier, qui a travaillé pour Multisim et est aujourd'hui au sein du département des sombres projets, et co-rédactrice en chef du magazine JDR Mag, et Cédric Litardi, grand nom du monde du GN et patron du dernier bar avant la fin du monde. Je leur laisse la parole. Comme vous pourrez l'entendre, malheureusement, la présentation de François et de Pierre n'ont pas été enregistrée correctement. J'ai donc dû les couper. Bonne écoute.
Et j'ai arrêté d'être dans l'univers du jeu de rôle à peu près dans les années 2000, tout en continuant à m'y intéresser.
Voilà, moi je suis Isabelle Perrier, donc je fais du jeu de rôle depuis maintenant fort longtemps. J'ai bossé pour Multisim en son temps, sur Agon et Nephilim, et j'ai fait partie de Casus deuxième génération aussi. Et puis que j'ai une vie civile aussi, quoi. Je travaille pour les Sombres Projets, donc je suis éditrice, auteur et co-rédactrice en chef de JDR Magazine, donc la nouvelle version, avec donc mon co-rédacteur chef qui traîne sous une tente là-bas et qui s'appelle Sébastien Sellerin. Voilà, et par ailleurs, je suis aussi chercheur dans tout ce qui est littérature d'imaginaire, culture médiatique, et donc je parle de jeu de rôle en fait à l'université et je transmets le drapeau. Voilà.
Ok, merci. Ben moi, je m'appelle Cédric Itardi. Alors, l'essentiel de ce pourquoi je suis connu, c'est de l'animation japonaise, donc ça n'a rien à voir ici. Mais j'ai quand même été rédacteur de Casus Belli première formule à la fois et deuxième formule. La raison pour laquelle on m'a invité, c'est d'abord parce que j'étais au mauvais endroit au mauvais moment, comme d'habitude, mais surtout parce que je suis un grand joueur et organisateur de GN depuis plus de 20 ans et que visiblement, il fallait que quelqu'un représente le jeu de rôle dans leur nature. Donc voilà, on m'a pris, on m'a enchaîné à cette chaise et je ne peux plus bouger.
Super. Alors, notre premier ordre du jour, comme je le disais tout à l'heure, ça va être d'essayer pour chacun d'entre nous d'expliquer peut-être en quelques mots ce que c'est que le jeu de rôle pour nous. François ?
Ah ouais, donc moi je m'étais mis en bout de table pour être un peu planqué et en fait à chaque fois ça me tombe dessus.
Bah ouais.
Ok, tout va bien. Bon, donc on part bien du principe que c'est donner notre vision de la chose.
Ta vision, ta définition, bon. On va pas plus loin que ça.
Ok. Vraiment, si moi je m'en réfère à ma façon de pratiquer le jeu de rôle, je vais dire, je sais pas, pour moi le jeu de rôle c'est une forme de fiction ludique.
Ouais.
À force de pratiquer, j'ai fini par m'apercevoir que j'accrochais beaucoup plus à la partie histoire qu'à la partie mécanique du jeu. Ouais, pour le côté fiction ludique, dire là l'histoire et la manière dont elle va se dérouler passe pour moi en premier. La partie technique, à mes yeux, doit servir à soutenir la précédente. Donc voilà. Pour moi le jeu de rôle, j'ai tendance à voir ça comme une façon de se raconter de chouettes histoires, en cadrant ça avec des mécaniques de jeu de société, parce que ça donne un aspect assez fun à la chose. Voilà.
Alors moi j'ai une approche, on va dire, assez traditionnaliste du jeu de rôle, c'est-à-dire que pour moi le jeu de rôle est un jeu asymétrique, c'est-à-dire que la plupart du temps on a soit un rôle de joueur, soit un rôle de meneur de jeu. Et ce que j'adore, c'est justement alterner, c'est pas toujours la même chose. Le joueur est celui qui va se créer ou se voir assigner ou inventer un personnage et donc essayer de jouer à l'intérieur d'une histoire qui est proposée d'une façon ou d'une autre son personnage et d'y jouer d'une façon de jeu de société. Donc c'est un côté très intéressant et qui donc est vu par le filtre de cet aspect de joueur. Ou le côté qui est meneur de jeu, qui moi est plutôt la mise en scène et la mise en scène d'une histoire qui est écrite soit par soi-même, soit par quelqu'un d'autre. Et le principe moi du meneur de jeu, et surtout, c'est pas un rôle d'arbitre, c'est de rendre la partie la plus intéressante, la plus dynamique et la plus joyeuse pour, ou stressante en fonction du jeu, pour les joueurs. Et donc le plaisir que je retire du jeu de rôle est totalement différent dans un rôle ou dans l'autre. En sachant que là, il y a de temps en temps des polémiques comme ça, c'est qu'il existe aussi des jeux de rôle assez différents dans lesquels le rôle de l'un ou de l'autre est mélangé, partagé, peut tourner. Mais au final, le jeu de rôle de base tel que je l'ai appris, tel que je le pratique 99% du temps, c'est vraiment sur ce genre de jeu asymétrique.
Alors je suis complètement d'accord. Alors je reprendrai la fiction ludique que j'aime bien, en rajoutant le côté interactif et inter. Alors c'est Coralie David qui dit ça, elle a parlé d'intercréativité. Donc c'est quelque chose qui me paraît très important, puisque c'est une fiction où tout le monde crée quelque chose, même si alors, certains peuvent dire qu'il y en a un qui crée plus que les autres, mais on va pas rentrer dans ces débats. Donc voilà, l'intercréativité. Et alors moi j'ai une définition aussi beaucoup plus courte et beaucoup plus rapide pour quand je m'adresse à des jeunes vidéoludistes en fait. C'est-à-dire que le jeu de rôle c'est comme un RPG, sauf que l'interface c'est moi. Enfin, c'est RMJ. Alors généralement ça leur fait très peur.
Oui. Les pauvres.
Ça marche assez bien en fait.
Ouais, bon, je serai avec des japonais.
Cédric.
Moi je vais embrayer sur le jeu de rôle grandeur nature du coup.
Absolument.
Parce qu'en fait, moi la question que je me suis toujours posée sur le jeu de rôle grandeur nature, c'est est-ce que c'est du jeu de rôle? Alors pourquoi ça s'appelle du jeu de rôle grandeur nature? Parce que la filiation du jeu de rôle grandeur nature est assez claire. C'est-à-dire que c'est des groupements de jeux de rôle qui ont voulu aller plus loin et qui ont fait quelque chose qui s'appelle du grandeur nature. Maintenant, si on recherche une définition, alors la meilleure définition que j'ai entendue pour le grandeur nature, c'est du théâtre ludique d'improvisation. D'accord? Vous savez ce que c'est que du théâtre? Vous savez ce que c'est que du théâtre d'improvisation? C'est à la mode en ce moment. On rajoute l'élément ludique. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train d'improviser juste pour une représentation théâtrale, mais on est en train de s'amuser, des intrigues, etc. Donc moi, je pense que, en fonction des définitions du jeu de rôle que vous donnez, le grandeur nature peut être considéré comme du jeu de rôle ou pas. Il faut voir quels sont les éléments importants. Quoi qu'il en soit, ils partagent des éléments, mais il y en a d'autres qui sont totalement différents. Notamment la question du MJ, etc. Mais sur un jeu de rôle dans la nature, c'est une organisation complète. Donc c'est une organisation complète, soit associative. Certains se posent la question de la faire professionnelle, mais en fait, c'est trop compliqué. Parce qu'on est en train de... Enfin, c'est trop compliqué, c'est pas rentable, parce qu'il faut beaucoup de temps pour créer ces histoires, etc. Et donc, personne ne peut vraiment en vivre. Et puis, les gens le font par passion, comme le jeu de rôle. En revanche, c'est un mécanisme de création différent parce qu'on équipe, mais qui relève du jeu de rôle. Donc, mettez-vous d'accord. Et après, on cochera les croix.
Bon, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de se mettre d'accord parce que on voit que c'est de toute façon une pratique qui est assez diverse, hein. Comme Pierre l'a rappelé, on a de tout. On a DMJ, pas DMJ, une grosse pratique majoritaire qui utilise ce truc-là. Et alors ça, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est ce que je fais aussi le plus souvent, hein. Donc, il n'y a pas de souci. Mais si je devais ajouter une chose à vos définitions, c'est que pour moi, j'ajouterais l'élément qui est la possibilité d'expérimenter des choses que j'expérimente pas dans ma vie en jeu de rôle. Et c'est d'ailleurs valable en jeu de rôle et en GN. Puisque ça m'est arrivé de faire en GN. Notamment, il n'y a pas très longtemps, j'étais à une journée qui s'appelle Studio GN, dans laquelle on a testé des jeux courts, très expérimentaux, très, très intéressants aussi. Voilà. Et donc, c'est utiliser le jeu.
Comment?
Ouais, des trucs nordiques, ouais.
C'était la semaine dernière. Hein.
Ouais, c'était il y a deux semaines. Il y a la semaine dernière, je sais plus.
Je crois que je pouvais pas y aller parce que j'étais sur le tournage de Noob, mais. Ouais.
Non, c'était vachement bien. Et du coup, voilà, c'est utiliser le jeu et le plaisir qu'on en tire pour aller repousser un peu ce qu'on est capable d'expérimenter, sans oublier le côté vraiment jeu, aventure, etc. qu'on a souligné avant, parce que moi j'adore ça aussi. Donc.
Bah, en même temps, que ça soit le jeu ou la fiction.
Ouais.
Dans les deux cas, c'est quand même une des fonctionnalités premières de la chose. Que ça soit quand on lit un roman, qu'on regarde un film, ou donc qu'on joue à quelque chose, ce côté expérimentation et se confronter à des choses qu'on n'aurait pas fait, qu'on ne ferait pas normalement ou qu'on n'aurait pas l'occasion de vivre normalement, j'ai l'impression que c'est assez constitutif.
Ouais. Je suis assez d'accord avec toi, oui, tout à fait. Alors, est-ce que dans le public nombreux, il y a des remarques ou des questions à ce propos? N'hésitez pas. Hein.
Non. Mais,
ok, alors
moi,
on va.
Moi, je pense qu'il y a une question lexicale, c'est-à-dire que à un moment, on a dit bon, le jeu de rôle, les embryons du jeu de rôle, même du grandeur nature, c'est des trucs qui existent depuis très longtemps. Alors, je fais semblant d'être quelqu'un, voilà. Mais à un moment, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a fait un truc, c'est un peu Donjons et Dragons, mais peu importe, et qu'on a nommé jeu de rôle et qui a cristallisé un peu un système et qui est devenu un modèle. D'accord. Et c'est exactement pareil pour le grandeur nature. À un moment, alors c'est pas forcément une personne, ça peut être plusieurs, c'est une évolution. Ça veut pas dire que ça n'évolue pas, et ça veut dire qu'il y a un standard lexical qui est que voilà, le jeu de rôle c'est Donjons et Dragons et c'est voilà. Mais évidemment, quand on fixe quelque chose, on s'en retrouve un peu prisonnier. Alors que si on dit le jeu de rôle c'est ça, on se retrouve prisonnier d'un mécanisme qui peut-être est le meilleur mécanisme. C'est pour ça qu'il s'est cristallisé. Dans le Grandeur Nature, on voit particulièrement aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie demande pour des expériences, c'est pas que du Grandeur Nature, du jeu de rôle, des expériences ludiques en groupe, interactives, immersives. Et on voit que les concepts qui sont développés sur le Grandeur Nature sont cristallisés dans des trucs plus simples qui donnent un accès de masse au public. Donc l'exemple récent le plus connu, c'est l'escape room. L'escape room, c'est quoi? C'est une cristallisation de concepts qui ont été développés avec du GN, de la chasse au trésor, etc. Et qui, à un moment, a formé un ensemble suffisamment cohérent, suffisamment compréhensible et avec suffisamment peu de barrières à l'entrée pour devenir un phénomène de mode qui touche des gens, jamais de leur vie, ils iront sur un GN ou voilà. Et c'est un exemple comme ça. Et je pense que le jeu de rôle, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, c'est un peu différent pour le jeu vidéo, mais en fait, le terme RPG a été pris et c'est juste le RPG, c'est juste jeu de rôle, role-playing game. Mais il a été pris dans l'informatique pour un système qui avait des règles différentes parce qu'il est dans un univers informatique, mais qui ressemblait à un système déjà existant, déjà cristallisé.
Oui, à ce propos, Pierre, tu nous racontais tout à l'heure une courte anecdote à propos de début du jeu de rôle au début du siècle.
Non, en fait, c'est pas une expérience, mais j'ai une tante qui a vécu jusqu'à 102 ans. Et donc à chaque fois que je lui expliquais, elle me disait ah oui, mais tout ce que tu fais en fait c'est de la BD, ou elle confondait la BD, le cinéma d'animation et choses comme ça. Moi je lui ai dit mais non, je lui ai fait un petit résumé de comment je jouais avec mes copains. Elle me dit ah mais c'est exactement comme ça que je faisais avec mon frère et mes deux frères, et c'est ton grand-père Pierre qui nous disait qu'on était un tel, souvent c'était nous mais parfois c'était pas nous, et il nous racontait une histoire, des fois c'était tiré d'un roman, des fois il l'inventait, et il nous mettait dans la situation, à chaque fois il nous demandait ce qu'on devait faire, en fonction de ce qu'on faisait il réécrivait l'histoire, et puis de temps en temps on n'était pas d'accord avec lui, de temps en temps on était d'accord. Et on me dit, c'est pas nouveau ton truc. Et puis voilà, mais par contre, à l'époque, il n'y avait pas de mécanisme de résolution. Il n'y avait pas le côté jeu de société. Et ça, c'est un exemple que j'ai juste dans ma famille, parce que j'ai posé une question à ma grande-tante. Ça se trouve, il y avait peut-être des centaines, des milliers de personnes qui faisaient exactement la même chose sans savoir que d'autres le faisaient.
Écoute-moi, j'ai un neveu qui est né il y a quelques années, et depuis 3-4 ans, mon père, son grand-père, lui raconte le soir, quand il dort chez lui, une histoire. Et dans cette histoire, régulièrement, il lui demande « Alors maintenant, on fait quoi? Maintenant, on va où? Qu'est-ce qu'il fait ?» etc. Et c'est la même histoire avec les mêmes personnages qui dure depuis 3-4 ans, tu vois. Donc une espèce de campagne de jeu de rôle, mais bon, sans règles, sans rien, juste en récit. C'est assez... C'est marrant de voir ça.
Mais c'est pour ça que je pense quand même la naissance vient à partir du moment où ça se transforme d'une façon ou d'une autre dans un jeu de société. C'est-à-dire où il y a une codification et un côté ludique.
Alors justement, comment le jeu de rôle est arrivé en France? Et surtout, comment est-ce qu'il a été reçu? Je pense que parmi nous, Pierre, encore une fois, tu es probablement celui qui connaît le mieux l'arrivée du jeu en France pour l'avoir vécu.
Non, je suis pas le mieux, mais un des plus... je suis quand même un des plus âgés ici. Et en fait, le jeu de rôle, je l'ai pas du tout connu par les magazines de jeu de rôle parce que ça n'existait pas, ni par des copains parce que ça n'existait pas. Je lisais Metal Hurlant, tout simplement. Et il y avait un type un peu fou qui parlait de toutes les nouvelles choses qui venaient des États-Unis. Et à un moment, il a dit, tiens, il y a un truc qui est marrant qui s'appelle Donjons et Dragons. Je peux pas vous expliquer, c'est trop compliqué. Il y a une boutique en France qui en vend, ça s'appelle Love Cube. Et comme de toute façon, moi, c'était une bible et tout ce qu'il disait dedans, ça devait avoir un intérêt. J'ai été à Love Cube, j'ai dit, est-ce que ça existe? Ils m'ont filé une boîte, j'ai lu, je n'ai rien compris. J'ai été dans un club, parce qu'on m'a dit il y a des clubs, je leur ai montré ma boîte, ils m'ont dit « Pauvre noob, tu joues à Donjons et Dragons, c'est trop vieux, on joue à Advance Donjons et Dragons, ton jeu est déjà dépassé, ça n'existe pas. » C'était en 81, donc je me suis déjà fait jeter. Et en fait, je n'ai compris ce que c'était que le jeu de rôle, puisque là, ils m'ont même pas laissé jouer, puisque j'étais un pauvre naze.
Ça y est, ils
t'ont jeté. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai compris ce que c'était que le jeu en 83. Il y avait qu'un seul club à l'époque, il y avait Saint-Rémy-des-Chevreuses ou quelque chose comme ça. Ou sinon, il y a un truc à Paris, mais Paris, c'était loin pour moi. Saint-Rémy était plus près. Et puis, quand j'ai intégré mon école d'ingénieur, il y avait un club de jeux de rôle. Et là, j'ai compris, parce qu'on m'a mis dans un jeu de rôle. C'était Donjons et Dragons, parce qu'à l'époque, Il y avait juste Donjons, Advanced Dungeons & Dragons justement, et l'appel de Cthulhu, et voilà. Mais pour les autres, j'en ai aucune idée. Et en fait, moi, quand je suis arrivé la deuxième fois à Love Cube, il y avait le numéro 1 de Casus Belli. Et là, je me suis dit, ah, j'ai commencé à l'acheter, et je pense que là, ça a permis à d'autres personnes de voir ça. Je pense que un des gigantesques points d'entrée, ça a été Science et Vie, qui ont fait leur série, qui était jeu et stratégie. Ils faisaient aussi des jeux de société dedans, jeux de plateau, qui était le Château des Sortilèges, qui avait été par François Marcela Froideval, qui connaissait Donjons et Dragons, et qui a fait donc un jeu de société, mais dans lequel il y avait des pièces à explorer, des dragons, et on jouait des rôles. Et je pense que c'est arrivé petit à petit comme ça, mais au départ, il n'y a pas des gens qui sont venus en disant « il y a des jeux de rôle je sais pas, je pense que ça a été vraiment au hasard. Avant qu'il y ait un magazine qui en parle, ça a été au hasard. Et le magazine qui en a parlé au départ, c'est Science et Vie, avec son première série qui s'appelait Jeux et Stratégie.
D'accord. Et à cette époque-là, donc tu as eu du mal à trouver des gens avec qui jouer, enfin, tu as trouvé des clubs, etc. Et quel était l'accueil, quand tu parlais de ce jeu de rôle, de cette pratique, du jeu de rôle, c'était quoi l'accueil autour de toi?
Non, mais aucun accueil, ni positif, ni négatif.
Ni positif, ni négatif, ouais.
Personne ne savait ce que c'était. Et c'était très compliqué à expliquer. Et l'explication, en général, était plus longue que la période d'intérêt de la personne, soit qui était intéressée, soit qui te posait la question. Et puis, il n'y avait pas de problème. Moi, j'ai trouvé trois, quelques copains avec qui jouer. On a joué et on ne s'est jamais posé la question à cette époque-là d'avoir plus de joueurs, de faire ça. Donc, je ne sais pas. Là, il faudrait poser des questions à d'autres personnes qui en ont entendu d'une autre façon que moi et qui ont une prise de problème.
Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à raconter sur vos débuts du jeu de rôle. Moi, je sais que j'ai commencé à jouer dans les années 88-89 et qu'à cette époque-là, j'ai commencé à jouer avec des amis. La première partie est un peu antérieure, c'était carrément dans un centre aéré à l'école où on m'a fait faire une partie de l'œil noir. Tu vois. Mais je n'avais rien compris, donc j'ai gardé en tête que c'était génial, mais je savais pas ce que c'était. J'ai attendu quelques années et au collège, j'avais des amis qui jouaient. Je suis allé les rejoindre. On a trouvé des clubs. On n'avait pas trop de mal à trouver des gens avec qui jouer. Et on avait vraiment un engouement autour de notre loisir à ce moment-là, quoi. C'était assez connu. Les parents étaient pas spécialement inquiets par rapport à ça. Et malheureusement, c'est quelque chose qui a un peu changé quelques années plus tard. Mais j'ai vraiment la chance, je trouve, d'avoir commencé à jouer à une époque où, c'était plutôt cool de faire du jeu de rôle, quoi. C'était sympa. C'était notre loisir principal parce qu'on n'était pas sportif, etc. Mais ça marchait.
Désolé de vous interrompre. Il y a des petites coquettes sur le site.
C'est pas grave.
C'est le début d'une aventure.
C'est le début d'une aventure. Il y a des pickpockets sur le site. Que faites-vous?
Ça va.
Alors, je sais pas, toi, t'as commencé à jouer quand, François?
Alors, moi, j'ai commencé le jeu de rôle, ça devait être en 82 ou 83. Ah, où j'étais tout minot, j'avais 10-11 ans, et en vacances, au camping, en Grèce, où je suis tombé sur un petit gars un peu plus vieux que moi, qui est d'une région parisienne, et qui avait Advanced Dungeons & Dragons dans sa besace, et qui a commencé à me montrer comment on joue.
Oui, il était pas has-been, lui. Il avait le Advanced, ok.
C'était bizarre, ça, la pratique était un peu... ça mélangeait, j'ai l'impression, des bouts de donjon et d'Advanced, joyeusement. Mais ouais, moi j'ai vraiment l'impression d'être rentré là-dedans par le bouche à oreille. Enfin, globalement, on me fait tomber sur quelqu'un qui jouait, qui m'a fait essayer. En même temps, je venais d'un patelin au fin fond de la Creuse. Donc à une époque où Internet oublie, où donc il n'y avait pas tant de presse ludique que ça. Et je ne lisais pas
mes tailleurs là. Quand on dit Internet ça n'existait pas, on perd la moitié du l'audimat.
Oui, surtout qu'en plus là, on nous écoute sur Internet. Oui. Alors voilà, je vous livre un secret. Il y a une époque où Internet n'existait pas. Non, puis... ouais, j'ai vraiment l'impression à deux mondes d'expérience à l'époque là. Vraiment, ouais. le phénomène a dû beaucoup gagner comme ça, de bouche à oreille, de proche en proche. Parce qu'effectivement, moi, la première fois où j'ai... Premier souvenir que j'ai du jeu de rôle dans les médias, outre le fait d'avoir découvert Casus Belli quelques années après, ça a été une émission avec Cyril Drevet, si je me souviens bien, à la télé. Je ne sais plus comment s'appelait son émission, mais il avait fait un...
C'est largement après 86, 87,
oui, c'est ça, plus vieux que ça.
Ouais. Filmé, oui.
Je me souviens d'une partie filmée avec des extraits de Lady Hawk derrière pour illustrer la partie.
Voilà.
Et le truc, mais pour le compte, le truc était super bien fait et m'avait donné l'impression de bien véhiculer quelque chose, de rendre une bonne image du truc. Donc l'impression ouais, que cette époque-là était très... les gens découvraient, avaient une vision... J'ai l'impression que les gens avaient facilement une vision débonnaire ou neutre par rapport à choses. Et par contre, pour les gens qui avaient une petite sensibilité fantastique, c'était tout de suite un machin... une espèce d'impression de nouveauté assez hallucinante.
Cédric, Isabelle ?
Mais moi, j'ai commencé un peu plus tard. Alors, c'est peut-être mon âge, ou peut-être je fais moins de jeux de rôle,
non,
je ne sais pas. et donc, moi, j'ai commencé, ça doit être en 93, en 94.
Ouais.
Et alors, il y avait deux... En fait, j'ai... En gros, j'étais un groupe de copines, on était au début du lycée, il y avait un groupe de joueurs, et mes copines voulaient se maquiller avec des joueurs, et moi, ça ne m'intéressait pas trop, mais par contre, les jeux de plateau, leur wargame et le jeu de rôle, ça m'intéressait beaucoup. Du coup, chacune de mes copines s'est maquée, et moi, j'ai été jouer avec eux.
Bravo.
Voilà.
C'est bien. Bravo.
J'ai même intégré la bande avec
Tu gagnes le prix pour le... Là c'est vrai.
J'ai intégré la bande par la diplomatie. Voilà, c'est évidemment mal passé. Et voilà, et du coup, c'est un groupe de... Il n'y avait pas trop de traumatisme. Par contre, c'est vrai que le fameux trauma, Mia ouais. Dumas, etc., est venu pas très longtemps après. Alors moi, on ne m'a jamais saoulé. Mes parents, on n'avait rien à faire. Les parents de mes copains qui jouaient, on n'avait rien à faire non plus. En plus, on achetait des livres. On restait dans le jardin à jouer sur des plateaux ou avec des feuilles et écrire des trucs. C'était quand même pas fou. En termes de débauche, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé au moment où ça commençait à ruer dans les brancards. Il y a eu une espèce de psychose de on va se refermer, on va arrêter d'en parler aux autres parce que quand même, c'est louche. Voilà.
Et ben moi, je vais aller dans le sens de Pierre. Mon premier jeu de rôle, c'est Mega. Donc, jeu et stratégie hors série, Mega, 1984. Néanmoins, donc merci Didier. Bon, il n'est pas là aujourd'hui, t'es là hier. Mais néanmoins, l'approche du jeu de rôle s'est fait, comme pour beaucoup à l'époque, par le livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que je me rappelle que j'ai acheté Le Sorcier de la Montagne de Feu quand il était tout seul, même pas dans une collection chartée, par hasard, je lisais beaucoup dans une librairie. Comme c'était un livre, j'ai eu aucun problème pour me le faire acheter, par ma mère. Et donc, vous imaginez, j'avais moins de 10 ans, hein, donc... C'est pas comme s'il y a des réseaux, etc. Donc de ça, de livre en livre, de connaissance en connaissance, de gens qui jouent, de méga, voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Ouais, bah moi, le premier jeu de rôle que j'ai acheté, c'est Pendragon, édition Gallimard, à la Fnac. À l'époque où on en trouvait. Et les premiers livres dont vous êtes le héros que j'ai fait, c'est les parents qui me les ont offerts, effectivement. Qui alternaient entre ça et des bouquins de SF. Voilà. C'était plutôt
bon choix, bon choix.
Ok, donc ça c'est la période dans laquelle on a pu commencer sans problème, et après effectivement il y a l'histoire Mireille Dumas, quelques émissions de télé, ça a déjà beaucoup été évoqué, je sais pas si on a besoin de beaucoup en parler, si ce n'est que ça a eu des répercussions importantes, notamment au niveau des clubs de jeux de rôle, dont un certain nombre se sont vus retirer le soutien des mairies. Moi je me souviens qu'on avait un club de jeux de rôle à la MJC, au centre socioculturel de la ville où j'étais, et que à cette époque-là il a plus ou moins fermé, il a déménagé, il est allé dans une autre ville qui était un peu plus accueillante, etc. Donc il y a eu quelques soucis. Et moi je me souviens, c'est pareil qu'Isabelle, j'ai jamais eu de soucis dans ma famille, dans mes amis avec le jeu de rôle. La seule anecdote que j'ai vis-à-vis des problèmes que ces émissions ont causé pour le jeu de rôle, c'est quand on organisait des GN Vampires en 80...
Oh,
c'est mal, je sais, c'est horrible. J'ai honte. C'est en 98-2000, je sais plus exactement quand. On a un joueur mineur qui est venu jouer. Alors, il y en a un qui est venu jouer sans problème. Il avait eu tout de suite un accord de ses parents pour jouer avec nous, parce qu'on voulait quand même que les parents soient au courant, parce qu'on jouait la nuit, etc. Et un autre dont le père a demandé à nous rencontrer pour être sûr qu'on n'était pas une secte. On a rencontré le papa, on a discuté avec lui. Aucun problème. Il a dit « Ah, c'est ça ? Ah, ça a l'air super sympa. Bah, je viendrai peut-être vous voir jouer un jour, et puis c'est tout. » Et en fait, il est jamais venu voir, mais ça lui avait plu comme concept. On est même allé jusqu'à faire une soirée GN Vampire dans un superbe manoir qu'il avait en Touraine, avec un labyrinthe végétal à l'intérieur, etc. Oui, le gars était un peu friqué. Et un petit peu. Et c'était génial, du coup, d'avoir ce lieu extra. Et on a eu ce lieu parce qu'il avait été convaincu que ce qu'on faisait, c'était pas du tout sectaire, quoi. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, vous, de cette époque-là ou pas?
Moi, je suis arrivé, en fait, c'était début 90, cette histoire.
Ouais, 80.
Moi, ça correspond à l'époque où j'étais à la, fac, à Limoges. Et en fait, il y avait, sur Limoges, il y avait 3-4 clubs de jeux, qui cohabitaient. Et en fait, moi, c'est la période où j'ai beaucoup pratiqué. Et malgré ça, enfin, l'activité était assez, restée assez florissante. Et, enfin, les clubs en question, il y en avait un qui était dans les locaux du Crous, dans une, enfin, à la fac, mais d'autres qui étaient dans les MJC. Et, j'ai pas vu de problème, enfin, j'ai pas vécu ce genre de problématique de mairie ou d'organisme, mais, surréagissant, de manière négative vis-à-vis du jeu. J'ai eu une anecdote un peu dans le genre de celle que tu décrivais, mais sur une organisation de murder party où on récupérait des joueurs, y compris on s'était retrouvé effectivement à avoir des joueurs mineurs qui participaient. J'ai souvenir une fois d'être passé effectivement chez l'un des joueurs qui était inscrit pour cette partie et de me retrouver effectivement à expliquer, enfin un peu au débotté par surprise, à me faire attraper, je crois, par sa mère avec des questions du alors qu'est-ce que c'est, expliquez-moi. Et finalement, c'est passé. J'ai pas l'impression d'avoir été particulièrement extraordinaire dans mes explications, mais c'est passé. Je pense qu'elle avait essentiellement besoin qu'on lui explique un petit peu, qu'elle avait besoin d'un minimum de se sentir rassurée. Mais j'avais pas senti d'animosité ou de vraie méfiance. Donc.
Moi, j'aimerais bien faire juste une petite digression historique qui explique un peu, peut-être, à mon avis, pourquoi il y a eu quelque chose de médiatique. C'est qu'en fait, Cédric a parlé effectivement du livre dont vous êtes le héros. Et le livre dont vous êtes le héros a été un boom gigantesque, a amené un nombre de jeunes à lire, à jouer, à être de son jeune univers, et a généré un chiffre d'affaires colossal, au point que Gallimard a pu lancer sa collection Gallimard Découverte, que la personne ne pouvait pas faire parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Et en fait, nous, quand on était dans le jeu de rôle, on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui ça pouvait être une étape. Et j'avais été contacté par des gens qui faisaient des livres dont être le héros. Didier avait été contacté, Jean-Pierre Pécaud. Et nous, on avait réfléchi en se disant, mais est-ce qu'on pourrait pas faire un système simple pour se servir des livres avec le héros, pour être une passerelle vers le jeu de rôle? Et en fait, moi, quand j'ai créé Simulacre, au départ, la première version, c'était un système pour livres dont être le héros, qui devait être un système générique. Et je pense qu'aux États-Unis aussi, il y a eu une démarche des jeux génériques, les premiers GURPS, ces trucs comme ça. Parce que quand je faisais, moi, des démonstrations de jeux de rôle, la plupart du temps, à l'époque, personne n'avait lu Le Seigneur des Anneaux, les films fantastiques n'existaient pas. Et moi, quand j'avais ma table et je disais aux gens, à quoi est-ce que vous voulez jouer? Si on leur proposait un truc avec un magicien ou des dragons, 80% des gens, ça ne les intéressait pas. Quand j'ai eu mon système générique et que je leur disais, est-ce que vous préférez jouer à l'agence Tourisque ou à Drôle de Dame ou à Donjons et Dragons, c'est simple, c'était l'agence Tourisque la plupart du temps. Et donc il y a eu le livre dont vous êtes le héros a amené une population gigantesque dans le domaine ludique, et ça n'a pas échappé aux personnes qui cherchaient à avoir des émissions qui faisaient de l'audience. Et en fait, ça a été la correspondance avec, aux États-Unis, des phénomènes de montée par des associations chrétiennes, des choses comme ça, d'incidents qui se sont passés autour du jeu de rôle. En France, la classe médiatique s'est dit, c'est aux États-Unis, ça peut être intéressant. En France, on s'en fout totalement parce qu'il n'y a pas autant de gens que ça. Mais quand il y a eu la coïncidence de, aux États-Unis, il se passe quelque chose, et il y a plein de gens en France qui jouent au livre dont vous êtes l'héros et ce domaine-là, ça, c'est peut-être intéressant d'en faire une émission et d'en parler parce qu'on a un public. Parce que jusqu'avant, ils n'avaient pas de public. Ils se disaient, on avait l'exemple dont on parlait, François, Drevet, il avait été nous voir, et c'était la 6e, 7e tentative qu'on a eue, parce que les gens, ils nous disaient, mais on est venu vous filmer, ça n'a aucun intérêt. C'est comme on va filmer du bridge, ça n'a aucun intérêt, il fallait montrer le truc. Donc ça n'intéressait personne. Et ces émissions, entre guillemets, à scandale, sont venues du fait qu'il y a eu un scandale aux États-Unis, qu'il y a eu un gros public en France dans le domaine du jeu, et ils ont essayé de monter ça en épingle. Et ce qui a posé des problèmes après. Donc ça, c'est ma première aparté. La deuxième, ce qui est très rigolo, c'est que moi, ça faisait quand même déjà 10 ans que je faisais jouer toutes les semaines mes copains chez moi, chez mes parents, à ma table. Et quand il y a eu cette émission, ma mère est venue me voir en disant, mais t'es sûr que c'est pas dangereux? Parce que jusqu'à présent, je vous regardais jouer, il n'y a aucun problème, mais ils le disent à la télé. Et elle était persuadée, elle dit avec tes copains, je sais que c'est pas dangereux, mais peut-être autre part c'est dangereux, sinon il le dirait pas à la télé. Il a fallu au moins un an qu'elle voit, comme elle était antiquaire, qu'elle voit une émission sur les antiquaires qui s'associait avec les gitans pour voler dans les maisons, pour vendre de façon internationale sur des marchés, etc. Pour qu'elle se dise, ah mais des fois la télé ils disent n'importe quoi.
Ça, c'est un phénomène que j'avais constaté effectivement à un moment. C'est quand tu te retrouves à regarder une émission comme ça, à sensation, qui parle d'un sujet que tu connais pas, ça paraît tout de suite, ah mon Dieu, c'est affreux, il se passe des trucs hallucinants. Et dès que par chance tu tombes sur un sujet sur lequel tu es pointu, sur lequel tu es capable de savoir comment ça se tourne parce que c'est ton métier ou une passion, tu découvres ce décalage et c'est assez salvateur. Ça permet de prendre du recul par rapport aux émissions à sensations, c'est clair.
Et pour revenir à ces émissions à sensations, on a essayé. En fait, je pense que le plus gros impact, ça a été surtout les quelques, alors je sais pas si c'est quelques, beaucoup, un nombre gigantesque, mais de mairies ou d'associations ou de MJC qui ont eu des parents qui n'y connaissaient rien et que quand ils voyaient ces associations-là, ils ont dit, à la télé, on nous dit que c'est dangereux, on n'est pas vraiment sûr, est-ce que vous êtes vraiment sûr? Et par précaution, on va geler ça.
Oui, je pense. Oui, je pense qu'il y a eu aussi un espèce de phénomène dont on parlait tout à l'heure, de repli de la communauté rôliste, qui a été terrible. Quoi. On avait presque honte de dire qu'on était rôliste parce qu'on avait peur que les gens nous jugent comme étant des espèces de cinglés, alors qu'en fait, on n'avait jamais eu. Enfin, pour moi, j'avais jamais eu de problème. Et pourtant, j'en parlais pas trop. Donc, je pense que je suis assez simple. Enfin, comment dire? C'est typique de la réaction rôliste de l'époque, c'est-à-dire, moi, j'ai pas eu de problème, mais il paraît qu'il y a des problèmes. Donc je vais pas trop en parler parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Une espèce de psychose totale. Bon.
De manière symptomatique, moi, dans mes premiers colloques universitaires, j'ai tombé en fait dans un repère. J'ai appris au fur et à mesure du repas qu'ils faisaient du GN, ils faisaient de l'escrime médiévale, voilà.
Quelle horreur, c'est pire le GN.
Mais je le savais pas. Enfin, ils avaient tous des têtes d'universitaires, on faisait des trucs d'universitaires. C'était très cadré. C'était en 2005, 2006, enfin voilà. Et au repas, le chef du colloque me dit « Mais Isabelle Perrier, c'est toi qui as bossé chez Multisim ?» Et mon premier réflexe, c'est failli dire non. Ouais. C'est de me dire « Oh là là, mais attends, je suis à l'université là, ça va pas ?» Et ça a été de dire non, et je me suis dit « Non, mais si je commence à me cacher, c'est quand même n'importe quoi, ça va, je parle de science-fiction, on va assumer. » Je lui ai dit « Oui, mais c'est vrai que mon premier réflexe intérieur, ça a été de dire « Non, je suis à l'université, je peux pas parler de ça. » Et c'était chaud, enfin, surtout aujourd'hui, le décalage est fou.
Pareil, à l'université, quand j'étais en laboratoire, mes collègues thésards venaient me discuter un peu de ce qu'on faisait en dehors, et j'avais presque honte de leur dire « Non, mais moi, ce week-end, je vais faire un GN. » Et alors, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est un GN ? J'explique un peu, ils me disent « Ah ouais, c'est des trucs où tu mets des collants et tu vas courir dans les bois. » Et puis c'était tout, en fait. Ils trouvaient ça, à la limite, un tout petit peu ridicule, un petit peu marrant. C'était pareil, 2003-2004. Et à part ça, il n'y avait pas de préjugés. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que là où on pensait qu'il y avait des préjugés très importants dans la société vis-à-vis du jeu de rôle, en fait, il n'y en avait pas. Il y avait une espèce de temps qui était passé. Je passe la parole juste après. Une espèce de temps qui était passé. Les gens avaient complètement oublié ces émissions. Et en fait, ils étaient intéressés. Ils ont commencé à dire, ah oui, ça se passe comment, etc. Ah, tiens, tu voudrais pas nous faire, ça prend combien de temps? Alors là, quand j'arrivais en disant, ouais, mais ça prend 4 heures, 5 heures, ah ouais, non, on n'a pas le temps, désolé. Mais bon, j'étais plutôt intéressé. Vas-y, François.
J'étais en train de... En vous écoutant, je me posais une question. Bon, il y a eu effectivement les émissions de Mireille Dumas, tout ça, mais est-ce que cette timidité à en parler, est-ce que ça venait vraiment de ce traumatisme? Ou est-ce qu'il n'y avait pas aussi, est-ce que ça pouvait pas être aussi un petit embarras de se dire, attends, je suis maintenant un adulte, je suis dans un milieu comme tu sais, milieu universitaire, milieu sérieux. Est-ce que ça va pas être un peu embarrassant d'avouer que je continue à jouer? Est-ce que c'était pas un moment où on pouvait trouver encore un peu bizarre que les jeux vidéo restaient encore étaient encore perçus comme un truc de gosse? Est-ce que finalement, est-ce qu'on n'a pas associé cette impression de cette gêne à en parler? Est-ce qu'on l'a pas associé en partie à tort au traumatisme médiatique? Et est-ce que c'était pas aussi simplement une petite touche de timidité de se dire, mince, est-ce que je peux avouer moi, étant un adulte, que je joue encore à une époque où on s'attendrait plutôt à ce que les jeux soient uniquement un truc d'ado?
Je pense qu'il y a des deux. C'est-à-dire qu'individuellement, il y a le fait de pas l'assumer. Par contre, moi qui à l'époque était dans un magazine et on publiait tous les mois les manifestations et les choses comme ça, je peux te dire qu'il y a eu une chute colossale. Donc, objectivement, il y a eu un impact. Et à mon avis, c'était peut-être en corrélation le fait qu'il y a eu cet impact qui n'a rien à voir avec le fait que, ça tu l'évoques bien, qu'on ne va pas dire qu'on joue à des jeux de gamins là-dessus. Mais je pense que c'est pas c'est corrélé, en fait.
D'accord, mais c'est plusieurs phénomènes qui sont, voilà. qui s'accumulent, en fait. D'accord.
Ce phénomène jeu de gamin, moi, j'ai une anecdote qui date d'il y a 4-5 ans. Des élèves à moi, que je vois en train de tripatouiller une feuille de perso et en train de dire, ah ouais, on mettrait ces compétences-là. Enfin, ils créaient leur jeu, en fait. Et j'en dis, tiens, vous faites du jeu de rôle. Et ils me disent, oui, oui. Puis bon, sans plus. Quelques mois plus tard, je les recroise dans une manifestation. Je me demande si c'était peut-être à Geekopolis, je suis pas sûr, je m'en souviens plus trop. Bref. Et quand je les recroise, je leur dis, ah, vous continuez à jouer et tout. Ils étaient costumés, complètement, attirail de gêne.
Non, non.
Non, non. Si. Ils disent qu'ils continuent à jouer, qu'ils sont super contents, etc. Ils disent, mais pourquoi vous en avez pas parlé aux autres de votre classe? Ils disent, ben non, vous comprenez, si on en avait parlé, on se serait fait casser la gueule parce qu'on était des gros geeks. Et ça, ils aimaient pas.
Mais je pense que tout ce que vous dites dit, chaque activité rôlistique a un certain nombre de barrières à l'entrée.
Ouais.
D'accord. Le livre dont vous êtes le héros, c'est relativement simple, il faut acheter un bouquin, le trouver. Le jeu de rôle, oulala, c'est compliqué, il faut trouver 5 amis qui sont tous disponibles, il y en a un qui prépare un scénar, c'est compliqué, il faut de l'accorder, donc c'est pas donné à tout le monde quand même. Hein. Moi j'ai jamais joué en club en plus, donc fallait le faire. Et puis derrière, t'as ah oui, mais c'est mal vu, on n'assume pas, on est censé grandir, etc. Barrière à l'entrée, parce que finalement, tu te dis, voilà, c'est le truc de, ah, ça dure 4 heures, on va pas le faire. Et puis derrière, t'as, alors le GN, alors là, c'est pire que tout, tu vas partir 3 jours dans la forêt, à dormir dans une tente, dans le froid, avec des gens qui vont te faire des bleus, enfin, voilà. Et en fait, le problème de nos activités, c'est ça, c'est des barrières à l'entrée. Et pour développer ces activités, il faut faire chuter le nombre de barrières à l'entrée. Et c'est alors, donc je reprends mon exemple de tout à l'heure, l'escape room, ça dure une heure, donc ça dure un ciné, quoi. Bon, alors tout le monde est allé voir un film super chiant au cinéma au moins une fois dans sa vie, voire plus d'une fois. Donc bon, c'est pas très, voilà. On est 5, donc bon, on va pas avoir l'air ridicule, quoi, parce que bon, on est entre amis, donc voilà. Ça coûte 25 euros, enfin. Et je comprends ce que c'est. Je vais être dans une salle avec des énigmes, je vais devoir sortir. Donc barrière à l'entrée, très basse. Plus basse que le jeu de rôle même. Parce que le jeu de rôle, il faut un MJ, il faut organiser, il faut machin. Alors machin, il y a piscine, tout ça. Donc je pense que donc les barrières psychologiques font partie de ça. Mais ce qui le principal moyen d'avoir plus de gens qui participent à ces activités, c'est de faire chuter les barrières à l'entrée. Et je suis persuadé que l'escape room ramène déjà des gens vers le GN, ou vers la murder party, ou etc. Alors, un nombre limité, parce que forcément, l'étape, elle est bien, mais quand t'as fait 1, 2, 3 escape rooms, t'as trouvé super, et quelqu'un te dit, ah, on a une murder, vous êtes enfermé dans un manoir, ça va durer 8 heures, c'est hors de Paris et tout, bah, tu reconsidères la chose. Et bon, on pourrait parler du jeu de plateau et du jeu de plateau simulationniste aujourd'hui, qui est à la mode, qui est un peu tendance vers le jeu de rôle, etc. Enfin, tout ça sont des choses qui rajoutent à la possibilité d'avoir du monde, etc. Moi j'ai une chance, je suis un bulldozer. Donc déjà, j'ai deux chances. Ma mère, elle m'a jamais dit rien du tout sur ce que je faisais, elle m'a toujours laissé faire. Et deuxièmement, je suis un bulldozer. Donc on me dit, ah non, ça c'est peut-être pas bien, j'en ai rien à foutre, j'ai envie de le faire. Voilà. Mais encore aujourd'hui, quand j'ai commencé à faire des animations japonaises, on m'a dit, non, mais ça marchera jamais, c'est pas que Marcel, voilà. Quand j'ai voulu voir le dernier bar avant la fin du monde, les brasseurs m'ont dit, non, mais ça marche jamais, ces gens-là, ils boivent pas, ils sortent pas, voilà. Enfin, voilà. Donc,
ils connaissent pas les GNistes,
ouais,
non, mais ils connaissent rien. Ils connaissent rien, c'est ça le pire. Donc non, c'était les brasseurs, quoi. Et aujourd'hui, oui. Ah là là, qu'est-ce que vous vendez comme bien? Ben oui. Après, ça dépend des individus, mais la plupart des individus, 1, 2 petites barrières, c'est suffisant. Et puis il y en a des comme moi, il y en a pas beaucoup. Et puis il y a tous les intermédiaires.
Ouais, je suis assez d'accord. D'ailleurs, le jeu de rôle aujourd'hui, parce que si on passe un peu sur la situation d'aujourd'hui, où on a vraiment l'impression que c'est une activité qui est vraiment en reprise. Je sais pas si c'est l'impression que vous avez ici, mais moi, de ce que je vois autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui est intéressé par le jeu de rôle, me demande. Eh bien, par exemple, Pierre, pour parler de collègues qui travaillent avec toi, qui m'ont demandé il y a quelque temps d'essayer de faire du jeu de rôle. Claire, je sais pas si tu en avais parlé. Bon, on n'a pas eu l'occasion de le faire pour l'instant, mais c'est des gens qui travaillent dans un milieu qui est proche de l'imaginaire, etc., qui n'avait jamais fait de jeu de rôle, et puis qui, à force d'en entendre parler, commence à se dire « Tiens, ça doit être pas mal !» Et donc commence à venir. Et c'est... Moi, pareil, au niveau des élèves, bah, je vois des photos d'élèves en escape room régulièrement. J'en vois qui disent maintenant de manière... J'ai eu un élève cette année qui m'a dit « Oh, on fait des jeux de rôle, c'est génial, monsieur, on adore ça. » Alors, le premier qu'on a fait, ça s'appelle HeroQuest. Bon. Ok, et vous faites comment ? Ah, on fait ça, mais on est en train d'inventer, on veut changer, on veut mettre des nouveaux plateaux, des trucs, etc. Et alors, c'est pas les élèves geeks dont je parlais tout à l'heure. C'est les types populaires, tatoués, qui sont bien dans la classe, qui se la pètent, etc. quoi. Donc, c'est pas les mêmes. Donc, encore une fois, c'est un exemple local. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on a une extension comme ça. Dans les festivals, les salons dans lesquels je vais, les endroits où il y a du jeu de rôle ne désemplissent pas. Si on prend le dernier exemple, alors on verra pour Paris Ludique où on est aujourd'hui, comment ça se passe, mais Antoine, tu disais que ça marchait bien ici. Voilà, votre planning de partie est plein, donc voilà, tout ce qui peut être joué est joué. J'étais au Salon Fantastique il y a quelques mois, pareil, les espaces ludiques étaient pleins tout le temps, c'était hyper impressionnant, et de la même manière que ce que tu disais Cédric sur les escape rooms, il y a des jeux qui sont vraiment maintenant faits pour durer une heure, il y en a même qui font des parties en une demi-heure. On a, bon, on peut citer Joanne Sipion avec Sombre qui va chercher les gens n'importe où, les alpagues, il les fait jouer pendant un quart d'heure, une demi-heure à ces jeux, et après ils s'en vont en étant super contents, en lui achetant ses bouquins, et en revenant lors du salon suivant pour rejouer avec lui, etc. Donc il y a de l'opportunité. Alors, pour vous, la situation du jeu de rôle aujourd'hui, vous la représentez comment ? Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Non, François.
Non, pas des matchs. Je suis un peu sans aller jusqu'à dire que je joue les ermites. J'ai pas. Je pratique finalement en petit comité. Je pourrais éventuellement répéter ce que tu viens de dire ou ce que vient de se dire par rapport à ici à Paris Ludique, vu que j'ai vu tourner les tables. Mais sinon, j'ai peur de pas être très très valable là.
Moi, je suis plus dans le milieu actif depuis un moment. Par contre, ce que je vois, c'est que on est une assez grosse population de gens qui, à un moment ou à un autre, ont découvert le jeu de rôle quand ils avaient entre 15 et 30 ans. Et donc, en fait, ça fait plusieurs millions de personnes, parce que ça a duré très très longtemps, qui maintenant sont plus âgés, ont un pouvoir financier plus important, et qui, par nostalgie, rachètent du jeu de rôle. Pas forcément pour l'instant, malheureusement, pour y jouer, mais au moins pour être au courant, pour faire de la collection, pour de la nostalgie, ce qui permet d'avoir un minimum d'activité économique. J'ai l'impression, par contre, qu'il y a une scène indépendante, une scène de publication qui se développe et qui devient de plus en plus importante en nombre d'offres et de produits. Par contre, j'ai l'impression, mais je suis pas vraiment dans le milieu, peut-être Isabelle sera plus proche de ça, que par contre, au point de vue d'industrie ou de chiffre d'avant, vente, on est très bas par rapport à ce qu'on était avant. Mais ça me semble prometteur le fait qu'il y ait de la création, qu'il y ait du développement. Maintenant, moi je crois toujours qu'il manque encore le chaînon manquant entre le jeu de patrouille très simple et le jeu de rôle très simple, comme dit Cédric, pour faire baisser les barrières. J'avais essayé à l'époque avec Simulacre, qui avait été une tentative qui n'avait pas été totalement réussie de faire ça, mais je pense que quelqu'un va le réussir. Je pense aussi que ces 12 singes, ils avaient fait des collections comme ça de one-shot. Je pense qu'un jour, quelqu'un arrivera à trouver un truc et on se dira, c'est tellement simple, c'est bête que personne n'y ait pensé avant, et qui permettra de découvrir la pratique du jeu de rôle de façon simple et courte.
Alors, moi, cette année, justement, est très tentative parce que j'ai réussi... Alors, pour la première fois, je voulais ouvrir un club de jeux de plateau dans mon lycée. En fait, ce club de jeux de plateau s'est transformé en club de jeux de rôle en exactement 2 semaines. Et je dois avoir la tête à ça, puisque j'ai des élèves de seconde qui, au bout d'une demi-heure, m'ont dit « Mais là, vous êtes trop lisse, non ?» Ok. Voilà, donc j'ai joué pour la première fois avec des élèves.
Non, hein.
Ah bah si, bien sûr. Parce que justement, je recrutais. Et voilà, alors jusqu'à... Il y en a un qui me regarde désespéré. « Madame, c'est terrible, il faut qu'on redouble. » Je fais, ah bon, pourquoi? Après la fin de l'année, comment on va faire pour continuer à jouer? Je fais, vous savez, vous êtes des humains, je suis un humain, j'ai une maison, je suis vieille en plus, donc j'ai une maison relativement grande, enfin, voilà. Ah ouais, super! Donc voilà, donc on s'est échangé nos numéros de téléphone pour jouer cet été, quoi. Et parallèlement à ça, j'ai fait jouer une tablée de collègues. Alors, de collègues, c'est la première fois de ma vie que j'animais une table où il y avait que des femmes. Alors ça, c'est quand même assez énorme. et c'est pas exactement pareil. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est des, enfin, il y avait des gens qui avaient, ils savaient absolument pas ce que c'était, mais aucune idée, quoi. Et il y en a une qui nous a fait une description de 5 minutes de son personnage. On aurait dit qu'elle jouait depuis 15 ans, quoi. C'était un truc de ouf. Voilà. Donc, vraiment hyper positif. La même année, d'ailleurs, j'ai aussi fait des tablés à l'université. Enfin, pas à l'université, mais avec des collègues universitaires. Parce que, en fait, l'université, ça les intéresse beaucoup. Alors, Paris 13, mais pas seulement.
Ouais.
Et moi, je me rends compte que depuis 2 ans, il y a en gros une communication sur deux que je fais à l'université. Enfin, j'en fais entre 5 et 10 par an, quoi. C'est sur le jeu de rôle maintenant. Voire, parfois, je dis, ouais, alors j'ai une idée sur la littérature, mais je pourrais aussi le faire sur le jeu de rôle. On me dit, ah, mais personne ne viendra sur le jeu de rôle. Fais-nous un truc sur le jeu de rôle. Voilà. Et donc, c'est un truc complètement fou parce que j'ai la moitié de ma production universitaire pour l'instant qui est sur le jeu de rôle, ce qui est complètement inespéré. Enfin, quand je repense au jour où j'ai failli me cacher et dire non, c'est pas moi, je ne pratique pas ces choses-là. Bon, bah, il s'est passé 10 ans et waouh, un truc assez impressionnant. Et alors, ces élèves rôlistes, ce sont des enfants de rôlistes. Enfin, de rôlistes ou de plateauistes ou de wargamers. Il y en avait, enfin, c'est un groupe très rigolo. C'est les premières, c'est tout. Et je me suis dit, ah, mais je rêvais de jouer à Bimbo et mes joueurs, bof, bof. Et je me suis dit, avec ce groupe-là, c'est génial. Ils me disent, ah ouais, mon père en parlait au dîner. Voilà, voilà.
C'est super, ça.
Donc, en fait, je me rends compte qu'il y en a un qui joue avec son frère, l'autre qui joue avec son père. Il y en a une, son frère joue avec son oncle. Et en fait, c'est la deuxième génération qui arrive. Et ça, c'est fort.
Alors, je me permets juste un encart publicitaire parce qu'on est obligé, on a cité ça. Donc, Bimbo est un jeu de Grégory Privat.
C'est vrai.
Absolument.
Je ne suis pas payé pour faire du placement de produits s'il ne fait pas partie de ma maison, il faut savoir.
Cédric, pour le GN, toi, tu as des...
Bah, moi, je pense... je vais rebondir sur ce qu'a dit Pierre, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'on a besoin, c'est dans l'air du temps, d'avoir des expériences immersives interactives. D'accord ? Donc, Pierre dit, il y a tous les vieux trucs qui vendent encore parce que voilà, mais c'est le même problème partout, c'est-à-dire que Hollywood fait plus que des licences, etc. Il n'y a qu'un truc qui est déjà connu qui arrive à émerger. Et puis il y a des nouveaux trucs, des nouveaux concepts, etc. qui vont sortir, donc l'escape room, mais il y en aura d'autres. Pour le jeu de rôle, pour le GN, c'est pareil. Sur le jeu de rôle, le problème effectivement, c'est que t'as pas de visibilité quand tu fais des trucs nouveaux. Je tiens quand même à dire que, à ma connaissance, la plus grande communauté et le jeu le plus joué en France aujourd'hui, c'est le Donjon de Nahulbeuk. Ils ont une communauté phénoménale. Le jeu n'est pas commercialisé, il est purement en ligne. Époque qu'un très bon ami veut le garder comme ça. Mais je peux vous dire qu'il y a des parties qui se jouent par internet, par machin, par etc. tout le temps. Et ça, c'est totalement en dessous du radar pour nous. Parce que si on n'en fait pas partie, c'est pas en boutique, ça représente rien économiquement, ça, etc. Donc.
Alors il y a un éditeur qui s'en est emparé, c'est le Grimoire qui publie atlas du jeu de un bestiaire, je crois.
Ah le bestiaire, oui. À chaque fois que je vois John, il me fait oui le bestiaire, tiens regarde, voilà. Il en est très fier. Mais c'est pas le jeu, c'est.
Non, c'est pas le jeu.
C'est le bestiaire. Donc et ça c'est en dessous du radar. Et d'ailleurs le crowdfunding fait que c'est en dessous du radar des boutiques. Enfin c'est donc faut pas. C'est déjà joué différemment. Il y a déjà des choses qui existent qu'on voit pas sur des radars normaux parce que les indicateurs économiques ne sont pas les mêmes, mais qui ont émergé parce que voilà, bah, le Donjon Nahulbeuk c'est quelque part c'est une licence, mais c'est quelque chose qui est né de l'univers rôlistique et qui revient à l'univers rôlistique. C'est quand même très très fort.
Ouais, moi, ça me fait penser à une expérience que j'ai eue à la convention Eclipse à Rennes l'an dernier. Ils organisent une bourse aux parties dans lesquelles les différents organisateurs de parties viennent proposer leurs jeux et les gens lèvent un panneau pour dire à quel jeu ils veulent participer. Il y a un tirage au sort et c'est réparti comme ça. Et j'ai été très frappé de voir que il y avait quasiment autant de jeux complètement amateurs, complètement créés par des gens sur place. Il y en avait quasiment autant que de jeux publiés, d'une part, et d'autre part que c'était souvent ces jeux-là qui attiraient la plus grande adhésion parce que bon bah c'était probablement le public local, etc. Mais comme l'exemple des élèves dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de gens qui, suite au Donjon de Nahulbeuk, suivent à différentes expériences médiatiques qu'ils ont eues, vont se mettre à, entre eux, créer leur jeu, créer leur partie, et pas du tout se demander comment les parents et les papys jouent au jeu de rôle, quoi. Ils font leur truc, comme tu disais, sur Nahulbeuk.
Ah, vas-y.
Je sais. Ouais, alors je suis pas psychiatre. Je suis pas sûr qu'il y ait des psychiatres autour de la table.
Pas moi. Non,
voilà.
Ouais, j'ai une opinion, c'est-à-dire que je pense que c'est très intéressant, que c'est bien, mais c'est pas parce que t'as un nouveau jeu, aussi intéressant soit-il, qu'il va être à lui tout seul l'avenir du jeu de rôle. Donc je pense que ton expérience sur ce jeu est sans doute géniale et fabuleux, il faut y jouer. Et je pense pas qu'il va empêcher tous les autres de faire d'autres jeux. Non, mais à partir du moment où tu dis, j'ai un nouveau jeu, j'ai un nouveau truc, c'est l'avenir, je n'y crois pas, même si c'est le meilleur jeu du monde. C'est-à-dire que même si Dixit a tout explosé les trucs comme ça, il va pas remplacer Codename ou il va pas remplacer, je sais pas, moi, Pandemic Legacy. Je suis sûr qu'il va y avoir plein de nouveaux jeux, plein de nouveaux jeux de rôle, plein de nouveaux jeux qui se rapprochent du jeu de rôle et qui ne sont pas du jeu de rôle, plein de jeux de rôle, jeux qui sont nés du jeu de rôle, qui auront juste un petit aspect, des jeux qui sont sur des points extrêmement pointus du jeu de rôle, mais je pense pas qu'à chaque fois on pourra dire c'est l'avenir du jeu de rôle. Voilà.
Bon, c'est une mécanique qui est pas récente.
Ouais. La coopération des craintes est plus effective et s'impose dans certaines situations. Voilà.
Il y a des. Un personnage, des gens qui jouent les différentes personnalités de ce personnage, qui prennent le contrôle du personnage chacun leur tour, etc. Ouais, c'est un jeu particulier qui propose une expérience qui peut être très intéressante, comme je disais, qui n'est pas récent. Hein, tout le monde est jeune, ça date pas d'il y a deux ans, quoi. C'est un peu plus vieux que ça. Et bah, ça fait partie des expérimentations, des jeux à la marge, un peu différents, comme il y en a plein. Et Pierre citait la scène indépendante qui produit énormément de choses. Bah, il y a beaucoup de jeux qui sont comme ça, des expériences hyper intéressantes. Et pour moi, personnellement, ça fait partie du jeu de rôle. Mais le jeu de rôle ne se limite pas à ça, de la même manière que le jeu de rôle ne se limite pas non plus à quatre types autour d'une table, dont un derrière un écran avec des dés. On a parlé un peu de GN pour étendre le truc. On peut parler aussi de ces jeux-là, il y a des tonnes de choses.
Il y a plein de choses à expérimenter en GN. Ouais. Voilà. Un jour, j'ai joué un personnage double. Donc il y en a un qui commençait une phrase, l'autre qui devait la compléter, et ainsi de suite. Eh ben, bon courage. Et évidemment, on ne veut jamais faire la même chose, donc on essaie toujours de tirer la phrase.
C'est ça la richesse. C'est au tout début, quand je parlais d'expérimenter des choses qu'on n'expérimente pas dans la vie, moi, j'ai pas plusieurs personnalités. Donc, jouer à un jeu comme ça, où je peux peut-être approcher l'idée de ce que ce serait d'en avoir en jouant, c'est hyper intéressant. Quoi. Je suis pas bien ce que tu veux dire. Bon. Oui, oh. Non, je suis pas d'accord. Mais c'est un autre débat, je pense. Je suis pas d'accord, mais c'est un autre débat. On en parlera après si tu veux. Voilà, est-ce qu'on a des choses à rajouter? Parce que ça fait à peu près une heure qu'on y est, le temps qu'on s'était donné au départ.
Non, moi je dirais juste, bon, sur le GN, il y a un problème qui est aujourd'hui, il n'y a pas assez de place par rapport au nombre de joueurs sur les jeux. D'accord? Donc du coup, le GN est en train de se diviser entre des petits jeux élitistes, des gros jeux qui n'ont pas du tout, qui ont des approches différentes, parce que avoir 10 joueurs, c'est pas la même chose qu'en avoir 50, que d'en avoir 200, que d'en avoir 500, ou d'en avoir 1000. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même échelle, c'est pas, voilà. Mais il y a plein de gens qui veulent potentiellement y participer. Sur le jeu de rôle, c'est moins évident, c'est-à-dire qu'on est encore souvent bloqué sur des jeux des jeux Madeleine de Proust auxquels on joue depuis des années, etc., dans des campagnes, dans des machins, voilà. Alors que, ça a bien été dit, il y a une génération de jeunes créateurs qui sont pas très visibles et qui, voilà. Et je pense que là, c'est qu'il faut. Et en plus, ils font des efforts. Ils viennent à Paris Ludique ou ailleurs faire tester leurs jeux, etc. Et là, on a vraiment quelque chose à jouer, nous, vieux joueurs, enfin, à dire, non mais bon, ok, on a l'habitude de jouer à Cthulhu, Donjons et Dragons ou machin, mais là, il faut qu'on aille voir aussi ce qui se fait et qu'on aille jouer et qu'on aille commenter, participer à la création, regarder ce qui se fait, etc. Pour qu'il y ait un renouveau là. Et je sais que pour moi je le fais pas assez. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais je sais que pour moi je le fais pas assez. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut. Voilà. Si j'ai un message à faire passer, c'est celui-là.
D'autant plus qu'en ce moment, un certain nombre d'évolutions technologiques permettent de vraiment faciliter ce travail. Finalement, Internet, oui, déjà Internet, et de toute façon, Internet comme moyen de communication, comme moyen de diffusion des jeux concrets, ou tout simplement comme moyen de diffusion de l'information. La preuve, on est en train de causer tout ça dans un podcast. Mais finalement, les plateformes qui permettent de publier assez facilement soi-même ces jeux, c'est devenu vraiment un bon vecteur pour que certains auteurs diffusent des jeux effectivement assez expérimentaux ou un peu assez originaux, mais vraiment en se trouvant un moyen de les diffuser, de les mettre à disposition des gens d'une manière qu'on avait du mal à faire il y a 10 ans, 20 ans encore plus. Mais mine de rien, les petits jeux faits à la maison et qu'on fait essayer à des potes, c'est aussi vieux que le jeu de rôle. Moi, j'ai des souvenirs, même chose à l'époque de la fac, de potes qui passaient pas une semaine sans se montrer en disant ouais, j'ai trouvé une nouvelle idée, je vais vous faire jouer un truc. On faisait deux parties, puis la semaine d'après, ils revenaient avec une autre idée. Peut-être qu'aujourd'hui, le même publierait ça en ligne et toucherait plus de monde.
Certains le font,
c'est pas faux.
Ok. Eh ben, merci à tout le monde et puis merci à notre auditoire.
Merci beaucoup.
C'était sympa.
Merci. Je voudrais savoir à quoi vont servir ces notes. Parce que depuis le début...